enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
La très très bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'on a fini de trembler devant le diable et c'est lui qui va trembler devant nous. Amen. Je pense que, vous savez, souvent on lit des choses dans la parole, on prie des choses, on les déclare et on sait que c'est vrai, mais on voit qu'on est un peu loin de ça. C'est un petit peu comme si c'est là et tu essayes de prendre, de toucher et tu n'y arrives pas, n'est-ce pas? Et depuis combien d'années nous avons déclaré « Je puis tout par celui qui me fortifie » et bien souvent, c'était pas tout à fait comme ça. Mais on a cru parce que c'était la parole de Dieu, amen. Et on l'a dit, on l'a déclaré. Et je sais que pour ceux qui l'ont fait vraiment avec persévérance, avec sincérité, avec foi, vous avez vu un changement dans vos vies, dans ce domaine-là, amen. Maintenant, le deuxième changement, ce qui m'intéresse vraiment ce matin, c'est que le diable va commencer à vraiment trembler devant nous. On a reçu des coups, on a tremblé, on a eu des problèmes, on a vu un certain nombre de choses. On a parfois fait trembler un tout petit peu le diable, mais honnêtement, c'était pas beaucoup. Amen. Mais à partir d'aujourd'hui, attention, 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 ça change. Ça change parce que nous avons cru ce que le Seigneur a dit. Et ces choses, elles ne viennent pas de nous. Amen. Et moi, je suis très contente que ça ne soit pas arrivé le jour où nous soyons convertis, parce qu'on aurait peut-être pu penser qu'on y était pour quelque chose. Et en fait, on n'y est pour rien. Amen. C'est Dieu qui est l'initiateur de toutes choses. C'est lui qui est l'auteur de même de notre foi. C'est lui qui mène toutes choses à la perfection. C'est lui qui nous change. C'est lui qui nous transforme. C'est lui qui nous fait grandir. C'est lui qui nous amène dans cette dimension et dans une nouvelle dimension d'autorité dans nos vies personnelles, mais aussi dans l'Église. Et j'aimerais que, quand on parle des choses de la parole de Dieu, qu'on s'arrête de tout rapporter à nous-mêmes, comme si nous étions les seules personnes qui existent sur cette terre. Quand on rapporte tout à nous-mêmes, en français on dit qu'on tourne autour de son nombril, et quand on tourne, on va nulle part, n'est-ce pas? Donc ça nous concerne nous personnellement, et Dieu est bon, mais c'est pour l'Église. C'est pour l'Église. Dieu veut que ces choses-là soient dans l'Église. Et si c'est pour l'Église, c'est aussi pour le monde à l'extérieur. Amen. Parce que le but de l'Église, c'est d'amener les gens au salut. Sinon, pourquoi est-ce qu'il devrait y avoir l'Église? Qu'on soit sauvé, qu'on aille au ciel direct. Mais le but de l'Église, c'est d'amener les gens au salut. Et ça, c'est aussi le but de notre vie. Donc qu'on cesse de voir notre vie spirituelle seulement pour nous-mêmes, nos besoins, notre maison, notre ration, notre travail, notre paix, notre ci, notre ça. Il est temps que vraiment on grandisse et qu'on ait une vision, non pas une vision étriquée, mais la vision de Dieu, c'est que le monde soit sauvé. Et ça c'est pour ça que nous devons faire trembler le diable. Déjà par rapport aux circonstances, il ne va même plus oser s'approcher. Par rapport à l'Église, que cette Église soit forte, que cette Église soit visitée, que cette Église soit ointe, que cette Église soit enracinée dans la parole pour pouvoir accomplir sa mission qui est d'aller toucher ce monde qui se perd. Amen. Ce matin, on va continuer dans Matthieu 5. En fait, on avait juste fait l'introduction du sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont vraiment des promesses de Dieu, et nous aimons les promesses de Dieu, amen. Matthieu chapitre 5, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il leur enseigna et dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Et comme on l'avait vu la dernière fois, ça commence et ça finit par ce verset. Le royaume des cieux est à eux. Amen. Le royaume des cieux est à eux. Et en fait, pour que le royaume des cieux soit à nous, il y a un certain nombre de conditions. Amen. La condition, c'est d'avoir bien sûr reçu Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Et pour pouvoir avoir reçu Jésus comme son sauveur personnel, eh bien, il a fallu qu'on reconnaisse qu'on avait besoin d'être sauvé. Ça ne va pas plus loin. Ça ne va pas plus loin. Et j'aimerais qu'on parle un peu de ça ce matin. On va lire dans Luc, chapitre 5, verset 27 au verset 32. C'est lorsque Jésus a appelé Lévi. Comme Jésus l'a dit, il n'est pas venu appeler des justes, mais il est venu appeler des pécheurs. Amen. Luc chapitre 5, verset 27 jusqu'au verset 32. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi assis au bureau des péages. Il lui dit « Suis-moi ». Et laissant tout, il se leva et le suivit. Jésus lui donna un grand festin dans sa maison et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, prenant la parole, leur dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » C'est assez étonnant. Quand on lit ce passage, on peut se dire « Tiens, pourquoi Jésus dit qu'il est venu appeler les pécheurs et non pas les justes ?» Parce qu'il n'y avait pas de justes, il n'y en a pas, il n'y en a jamais eu. Amen. Dans Romains chapitre 3, verset 23, il est dit que « Car tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc Jésus est venu appeler ceux qui étaient malades, il est venu appeler ceux qui étaient pécheurs. Et en fait, c'est pour ça qu'il est écrit dans ce passage que j'ai lu tout au début, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui est pauvre en esprit? C'est pas un débile. C'est pas ça, être pauvre en esprit. C'est quelqu'un qui réalise qu'il est perdu. C'est quelqu'un qui connaît sa situation. Vous savez, il y a deux sortes de personnes. Bien sûr, il y a les pécheurs et ceux qui sont sauvés. Mais parmi les pécheurs, il y a deux catégories de personnes. Il n'y en a pas 50. Il y en a seulement deux. Il y a ceux qui savent qu'ils sont pécheurs, qui vivent dans leur péché, qui ne savent pas comment en sortir. Des fois, ils voudraient bien, des fois pas trop. Mais ils savent qu'ils sont des pécheurs. Et ça, c'était typique de l'époque de Jésus, des publicains, des gens de mauvaise vie, les prostituées, tous ces gens-là, ils savaient qu'ils étaient des pécheurs. Il n'y avait pas besoin qu'on leur fasse un dessin, ils le savaient. Par contre, il y a une autre catégorie de personnes dans laquelle étaient beaucoup de pharisiens, beaucoup de scribes, les sacrificateurs, les juifs religieux de cette époque. Ils ne savaient pas qu'ils étaient pécheurs. Et pourtant, ils l'étaient tout autant que les autres. Vous savez, être pécheur, c'est la nature de l'homme qui n'est pas sauvé, c'est sa nature intérieure. Pécheur, nature diabolique, pécheur qui vit dans le péché et qui va en enfer irrémédiablement. Amen. Soit tu le sais, soit tu ne le sais pas. Soit tu acceptes et que tu le reconnais. Et ça, c'est le premier pas vers le royaume de Dieu, vers le changement, vers la repentance. Soit tu ne l'acceptes pas et tu vas rester dans tes péchés. Et ça, c'est ce que Jésus disait maintes et maintes fois, combien de fois aux Juifs ? Vous êtes dans vos péchés, vous allez mourir dans vos péchés, vous ne voulez pas croire qui je suis, vous ne voulez pas de la solution de Dieu, et vous allez mourir dans vos péchés. Et qu'est-ce que c'est que mourir dans ses péchés ? C'est ni plus ni moins aller en enfer. Parce que mourir, ce n'est pas une fin en soi. Amen. La Bible dit, après la mort, vient le jugement. Le jugement pour les pécheurs. Pour ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, il n'y a plus de jugement. Parce qu'il a pris notre condamnation. Jésus a pris la condamnation de l'humanité entière. Vous savez, on doit comprendre les choses de Dieu et comprendre la parole de Dieu comme un livre de loi. La loi, elle est faite pour protéger les gens qui s'y soumettent. Amen. Normalement, la loi, elle n'est pas faite pour détruire. J'ai dit bien normalement. Elle n'est pas faite pour détruire, elle n'est pas faite pour nuire, mais elle est faite pour protéger. Et nous sommes protégés par la loi de Dieu. Nous sommes protégés par les lois spirituelles que Dieu a mis en place pour que nous puissions être sauvés. Après la mort vient le jugement, nous dit la parole de Dieu. Parce qu'après la vie vient la mort. Mais après la mort vient le jugement. Donc soit tu es sous le jugement, soit tu ne l'es pas. Comme je vous l'ai dit, la mort, c'est pas une fin en soi. Mort, ça veut dire séparation. Séparation, quand on parle de la mort physique, c'est la séparation de notre corps qui reste et restera de toute façon sur cette terre. Notre corps sera détruit. Amen. Même si Jésus revient avant, notre corps humain sera détruit. On n'ira pas au ciel avec ce corps-là. Donc mort, la mort physique, c'est une séparation. Maintenant, il y a aussi la mort spirituelle. Et ça, c'est la condition de tous les pécheurs. Jésus dit, je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. Les pécheurs sont morts spirituellement. Et la repentance, c'est ce qui permet à quelqu'un de reconnaître sa condition. Je suis pécheur, je suis perdu, je suis condamné, je suis condamnable. Tout ce que j'ai fait, les choses que j'ai faites dans ma vie, le fait que je n'ai pas vécu pour Dieu, le fait que je n'ai pas mené une vie qui était digne de Dieu, me condamne. Et quand quelqu'un se repent, c'est pour lui l'occasion de recevoir Jésus et de naître de nouveau. Et c'est ce que Jésus a dit. Je suis venu appeler les pécheurs. Les pécheurs, c'est tous ceux qui se reconnaissent comme étant pécheurs. Et quand tu te reconnais étant pécheur et que tu demandes pardon au Père, Jésus vient habiter dans ton cœur. Le sang de Jésus te lave, te purifie de tous tes péchés. Tu deviens un enfant de Dieu et tu deviens vivant. Tu étais mort à la vie de Dieu, tu deviens vivant à la vie de Dieu. Ça veut dire que le jour où tu vas mourir physiquement, ton esprit, ton âme vont quitter ton corps pour aller au paradis. Mais tant que tu es dans la mort spirituelle, tant que tu n'as pas reçu Jésus comme sauveur personnel, tu es un mort en sursis. Tu es quelqu'un qui est en sursis. Vous savez, il y a ces prisons là où il y a des condamnés à mort. Je sais qu'aux États-Unis récemment, on a dû exécuter un condamné à mort. Je ne sais plus exactement quels sont les crimes qu'il avait commis, mais il était condamné à mort. Et il y a eu le jour de son exécution. Et les gens qui sont morts spirituellement, ils sont comme ces gens-là qui sont dans une prison où il y a les condamnés à mort. Condamnés à mort. Ils sont encore vivants, mais ils sont condamnés à mort. Et je vous assure que le jour où on dit la date de leur exécution, Eh bien, la date de leur exécution, c'est le jour où ils meurent. On les met sur, je ne sais pas si c'est encore la chaise électrique ou si on leur fait des piqûres pour les faire mourir, mais je vous assure que l'instant où on leur injecte ce produit-là, c'est fini pour eux, ils meurent. Et les gens qui sont morts spirituellement, qui sont pécheurs, qui sont étrangers à Dieu, à la vie de Dieu, ils sont comme ces condamnés à mort. Ils se sentent peut-être encore vivants, mais ils sont dans l'attente. Et le jour de leur mort, c'est terminé, ils vont en enfer. Et Jésus est venu pour que ces gens-là, dont nous faisions partie, puissent sortir de cette prison de condamnés à mort pour trouver la liberté et pour trouver la vie. Pour trouver la liberté et pour trouver la vie. Amen. Et le troisième type de mort, c'est la mort éternelle. C'est quand quelqu'un était mort spirituellement, il meurt physiquement, il va en enfer. Et une fois qu'il meurt, c'est fini, c'est trop tard, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'important. Je sais que vous qui écoutez ça, vous êtes déjà sauvés. Mais ce n'est pas pour vous-même seulement que je dis ça, mais pour que vous compreniez que nous avons un rôle, nous avons une mission à remplir, et ce rôle, cette mission, c'est d'aller parler de Jésus dans ce monde qui se perd, afin que tous ces gens-là qui sont des condamnés à mort, qui sont enfermés dans cette prison, qui sont misérables, qui sont malheureux, ils ne passent pas de l'autre côté, du mauvais côté, mais qu'ils se passent de ce côté-là. Le bon côté, c'est de recevoir Jésus, de recevoir la vie éternelle. Amen. Donc ça passe par quoi? Par le fait de reconnaître. Et les gens religieux, ce sont des gens qui ne reconnaissent pas leurs conditions, qui ne reconnaissent pas leur état, qui se considèrent comme justes devant Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit: je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes. Des gens qui sont justes, ils se privent de la repentance, ils ne peuvent pas recevoir la repentance. Et nous étions de ce nombre, du nombre de ces pécheurs. Et si aujourd'hui nous sommes appelés justes, ce n'est pas parce qu'on a fait grand chose pour ça, amen, que cet orgueil religieux ne rentre pas dans ta vie. Amen. Cet orgueil religieux: maintenant je suis quelqu'un de bien. Si maintenant tu es quelqu'un de bien, c'est parce que tu as laissé Jésus entrer dans ta vie, parce que tu l'as laissé toucher ta vie, parce que tu l'as laissé changer et influencer ta vie. Et il y a encore du travail. Il y a encore du travail. Vous savez, il est important que nous restions des gens pauvres en esprit. Qu'est-ce que ça veut dire être pauvre en esprit? Ça veut dire être humble. Parce que celui qui s'humilie, c'est celui qui sera élevé par Dieu. Et quand on parle de ce principe, la question, ce n'est pas de s'humilier pour être élevé, pour devenir des gens extraordinaires. Mais la question, c'est d'être élevé pour progresser. Amen. Si nous voulons nous humilier, c'est parce que nous avons ce désir de progresser avec Dieu. Parce que nous savons que nous ne sommes pas encore arrivés là où nous voudrions être. Parce qu'on parle du royaume de Dieu et il y a une plénitude dans le royaume de Dieu. Amen. Mais avant d'arriver là, on a parlé de Matthieu, Lévi, ce publicain qui a reçu Jésus. Jésus est venu lui dire: viens et suis-moi. Mais il n'est pas le seul, il y a aussi Zachée. J'aimerais parler un peu de lui aussi ce matin. C'est dans Luc 19, un autre publicain, un autre pécheur. Vous savez, Jésus a dit aux pharisiens: vous allez voir les publicains, les pécheurs, les prostituées, vous devancez dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que leur péché n'a pas d'importance. On peut être voleur, menteur, adultère, impudique ou ivrogne. C'est pas grave, on va précéder les gens qui vivent dans la religion, dans le royaume de Dieu. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ce sont pas tous les ivrognes, ce sont pas tous les menteurs, ce sont pas tous les voleurs qui vont précéder les autres dans le royaume de Dieu. Amen. Ce sont seulement ceux qui se sont humiliés, ce sont seulement ceux qui ont eu soif de Dieu, ce sont seulement ceux qui se sont repentis et réellement repentis. Parce que l'ouverture du royaume de Dieu, elle passe par la repentance. Il y avait un autre homme qui s'appelait Zachée, comme je vous dis, c'est dans Luc chapitre 19. Sachez aussi, c'était un publicain, c'était un escroc, c'était un homme de mauvaise vie. Mais c'est un homme qui avait soif de Jésus, tout comme Matthieu, tout comme ces gens qui étaient là dans ce festin, qui avaient soif de Dieu, qui désiraient Dieu. Il était petit, il est monté dans un arbre pour voir Jésus parce qu'il n'arrivait pas à le voir de la foule. Et là aussi, ça lui a demandé de s'humilier. Parce que vous savez qu'à cette époque-là, les gens portaient des robes, les hommes aussi. Et monter dans un arbre quand tu portes une longue robe, c'est pas très facile. Ça dépend, vous allez me dire, ça dépend de l'arbre. Si c'est un arbre avec un ascenseur, c'est facile. Ou si c'est un arbre avec une échelle, mais ça, ce n'était pas le cas. Je ne sais pas comment était l'arbre, mais il faut d'abord lever la robe, il faut essayer d'attraper les branches, tenir la robe d'une main. Et pour un homme qui avait une position dans la société, c'était humiliant. Vous comprenez ça ? Zachée, en montant dans l'arbre, il s'est vraiment humilié. Les gens qui ont dû le voir en train de monter dans l'arbre, il y en a qui ont dû rigoler. Ils ont peut-être vu sa culotte en dessous de son arbre, je ne sais pas. En dessous de sa robe, je ne sais pas. C'était pas évident, mais il n'a pas regardé ces choses parce qu'il avait une sincérité et une soif véritable et authentique. Amen. Vous savez, là, il y a une seule chose que Dieu regarde, c'est la sincérité du cœur. Ce n'est pas ce que tu vis ou ce que tu as vécu, mais la sincérité de ton cœur. Et quand tu as un cœur sincère, ça peut même t'amener à monter sur un arbre et te ridiculiser devant tout le monde parce que tu as soif de Dieu et que tu veux voir ta vie changer. C'est ça dont il est question. Et quand Jésus est passé devant l'arbre, il a vu Zachée dans l'arbre et il l'a appelé, il lui a dit « Zachée, viens, je dois habiter chez toi ». Comme il doit habiter chez toi, il doit habiter chez moi, il doit habiter chez tout le monde. Mais c'est seulement ceux qui sont capables de reconnaître qui ils sont. Et ça, c'est vraiment valable pour les inconvertis, mais c'est valable aussi pour les chrétiens. Tu penses que tu es une personne extraordinaire? Tu penses que tu es quelqu'un de très spirituel? Quand on pense ce genre de choses, je vous assure qu'on se disqualifie, on se prive nous-mêmes de la grâce de Dieu. On vit dans notre propre satisfaction, dans notre satisfaction personnelle. Je suis quelqu'un de bien. Ça, c'est l'esprit des pharisiens. C'est l'esprit religieux. Et cet esprit-là, on peut le trouver même chez les chrétiens. Moi, je suis spirituel. Je ne mange pas avec les pécheurs. Je prie, je donne ma dîme, je jeûne deux fois la semaine. Quand on a ce genre d'attitude, je vous assure que ça ne plaît pas à Dieu. Dieu peut dire, mais je n'en ai que faire. Je n'ai pas besoin de tes jeûnes, je n'ai pas besoin de ton argent, je n'ai pas besoin de tes prières, parce que ça ne sert qu'à nourrir ton orgueil, mais ça ne contribue pas dans mon œuvre et dans mon royaume. Amen. Que vraiment nous puissions garder nos cœurs. Oh, ne pense pas, non, moi je ne suis pas comme ça. Si tu penses, oh, je ne suis pas comme ça, c'est que tu es déjà comme ça et que tu t'en rends même pas compte. Gardons nos cœurs. Gardons nos cœurs humbles devant Dieu. Ce que nous sommes, c'est lui qui l'a fait. Et ce que nous avons, c'est lui qui nous l'a donné, et ayons continuellement soif de davantage de Dieu dans nos vies. Parce que plus il y aura de Dieu dans ta vie, plus il y aura de Dieu dans les circonstances de ta vie, à l'extérieur de ta vie. Et Jésus a dit à Zachée, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Parce que Zachée avait soif de Jésus, Zachée était prêt à n'importe quoi pour voir Jésus. Et ça, c'est quelque chose que on doit avoir eu pour recevoir Jésus, être sauvé, et c'est quelque chose que nous devons maintenir à tout prix dans notre vie. Avoir soif de Jésus, désirer Jésus, être prêt même à monter dans un arbre avec une longue robe, peu importe. Peut-être que les gens vont se moquer de toi, peut-être que tes collègues vont se moquer de toi, peut-être que ta famille va se moquer de toi, peut-être que même les autres chrétiens de l'église vont se moquer de toi. Mais qu'importe, ce qui est important pour nous, c'est d'entendre Jésus nous dire, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Amen. Et quand Zachée a fait cette démarche-là, Jésus est venu chez lui, il a mangé chez lui, et Zachée était tellement touché, par Jésus, qu'il a dit « Je donne la moitié de mes biens aux pauvres ». Ça, il n'était pas obligé de le faire. Amen. La loi ne requiert pas que nous donnions la moitié de nos biens aux pauvres. Et pour avoir envie de donner la moitié de ses biens aux pauvres, surtout quand on est riche, il faut vraiment avoir été touché par Dieu. Parce que je vous assure que les plus avares, souvent, ce sont ceux qui sont riches. Amen. Il y a des pauvres qui sont avares, il y a des riches qui sont avares. Mais ne croyez pas que les gens qui ont de l'argent vont faire des distributions. Ne font pas ça. Mais Zachée était touché par l'amour de Jésus. Zachée se tenait dans la présence de Jésus. Zachée avait soif de Jésus. Et Zachée a dit, la moitié de mes biens, je les donne aux pauvres. Et ça, c'était le résultat. C'était le résultat de ce qu'il a vécu. C'était pas, oh, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Jésus, regarde comme je suis quelqu'un de grand et de bien. Parce que ça, Jésus n'en a que faire. Amen. Il a donné la moitié de ses biens aux pauvres et en plus, comme c'était un escroc, il s'est engagé à le faire et je sais qu'il l'a fait, de rembourser à tous ceux qu'il avait escroqués et encore de multiplier par quatre parce que c'était une exigence de la loi de Moïse. Amen. Et c'est pour ça que Jésus a dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Le salut, c'est quelque chose qui change, mais au-delà même de changer, qui révolutionne la vie des hommes. Amen. Le salut est entré dans la maison de Zachée, dans son cœur, non pas parce qu'il était bien, non même pas parce qu'il était publicain, mais parce qu'il a su reconnaître qu'il était. Il était un pauvre en esprit, et c'est comme ça qu'il est entré dans le royaume de Dieu et qu'il a vu les bénéfices du royaume de Dieu dans sa vie, plus tard, après la résurrection de Jésus. Jésus est venu pour sauver, pour chercher ceux qui étaient perdus, c'est-à-dire tous les hommes. Mais là encore, il y a eu cette confrontation avec les hommes religieux, verset 7, Luc 19, verset 7. Voyant cela, lorsqu'ils ont vu que Jésus venait chez Zachée, voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Parce qu'eux-mêmes, ils croyaient qu'ils n'étaient pas des pécheurs. Parce qu'eux-mêmes, ils pensaient qu'ils étaient justes, alors qu'ils ne l'étaient pas. Amen. N'étaient pas justes. Et Jésus va conclure qu'il est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Ceux qui étaient perdus, c'est ceux qui reconnaissent qu'ils sont perdus. Vous savez, on veut davantage de Dieu dans nos vies, on veut être béni, on veut être rempli, on veut être pourvu, on veut être oint, on veut beaucoup de choses. Mais ça passe par le fait que tu reconnaisses d'abord que ces choses-là, elles ne viennent pas de toi, qu'elles viennent de Dieu. Qu'elles viennent de Dieu, que tu ne les mérites pas, que tant que tu n'as pas reçu ces choses, que tu ne les as pas vues agir dans ta vie, tout ce que tu as fait, c'était pourri, catastrophique, désastreux, nul, nul, complètement nul. Et quand tu as ce cœur-là, c'est là où tu te mets dans une position où tu vas recevoir de Dieu. Mais si tu commences à venir en disant, oh Seigneur, tu vois, moi je ne suis pas comme eux, je suis vraiment quelqu'un qui marche avec toi, qui va à l'église, qui prie, je ne vis pas dans le péché, je ne suis pas comme ces gens-là. Tu fais ça, rien que de... Fais ça, t'es disqualifié, disqualifié. Et dis, Seigneur, j'en ai désespérément besoin dans ma vie, j'ai soif de toi. Je veux davantage de toi, je veux vivre davantage, expérimenter davantage de ces choses-là qui sont saintes, qui sont sacrées, qui sont magnifiques, qui sont merveilleuses. Je veux le voir dans ma vie. Et puis ce que j'aimerais aussi, c'est pouvoir voir d'autres personnes le vivre également. Quand tu as ce cœur-là, tu es celui qui reconnaît que tu n'es rien, que non pas que nous ne sommes rien, parce que si nous n'étions rien, Jésus serait mort pour rien. Mais que nous n'avons rien mérité et que nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Amen. Vraiment, j'ai voulu parler dans le sens de l'évangélisation, mais j'ai voulu parler aussi pour nous, que nous n'ayons pas ce cœur des pharisiens qui murmurent. Parce que quand tu murmures, quand tu te crois meilleur que les autres, quand tu vois quelqu'un, Vous savez, des fois, on voit des gens qui sont bénis, on se dit, tiens, pourquoi le Seigneur bénit cette personne? Franchement, elle n'est pas sérieuse, c'est un farceur, c'est quoi ou c'est quoi? Je vous assure que les gens qui sont pécheurs, qui soient farceurs, que ce soit eux les plus bénis, parce que c'est cette bénédiction-là qui va les changer. Amen. Ça ne veut pas dire que si nous ne sommes pas des farceurs, nous ne devons pas être bénis. Que nous soyons bénis aussi, il y en a pour tout le monde. Amen. Que tout le monde puisse recevoir de l'abondance, de la grâce de Dieu, parce que ce n'est pas par nos mérites que nous pouvons recevoir, mais simplement quand on reconnaît, Seigneur, j'en ai tellement besoin, j'ai tellement soif de toi, je ne mérite rien, mais je le veux dans ma vie. Et que vraiment vous puissiez toujours, continuellement, maintenir ce cœur. Amen. Soyez bénis, passez une bonne journée.
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.